BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Programme chargé aujourd'hui, nous nous trouvons à la Commission Européenne. On va parler d'avenir de l'Europe, de déficit public et de fiscalité. Bonjour Florence Autray.
Bonjour.
Correspondante de La Tribune. Pourquoi la France ne demande-t-elle pas sa part des 13 milliards d'euros que l'Irlande va récupérer auprès d'Apple?
Mais c'est une bonne question et moi j'ai pas la réponse, mais je sais que Michel Sapin fait énormément de redressements en tout genre auprès des multinationales sur la base de ces fameux arrangements et qu'il a récupéré quand même, je crois, près de 3 milliards l'année dernière en redressant un petit peu les comptes. Pourquoi pas Apple? Je ne sais pas. Faut que vous l'invitiez.
On va tenter de trouver la réponse à cette question durant cette émission. Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Jean Quatremer qui fait sa rentrée. C'est votre première dans l'émission. Cette semaine, dans 500 millions d'Européens, vous étiez à Bratislava la semaine dernière. On s'attendait, François Hollande nous avait promis un sursaut européen grâce à la France. Sursaut, y a-t-il eu?
Matin, quel sursaut, oui. Ça, c'est du sursaut à la François Hollande, si vous voulez. C'est un sursaut à retard. Non, il y a strictement
le sursaut maintenant.
On a tenté de nous vendre, enfin, François Hollande et Angela Merkel, qui ont fait une conférence de presse commune, prenant deux questions chacun. Deux. C'est la démocratie en marche, on aime beaucoup. Qui avait eu un
Donc,
esprit.
Quatre questions au total.
Oui, quatre questions
si
au total.
Si jamais il y avait eu Matteo Renzi dans cette conférence de presse,
six questions.
Ça aurait fait six questions.
Six questions, quelle chance.
Finalement, il s'est désisté, voilà. Ou alors il n'a pas été invité.
Et lui, c'est-à-dire que les deux ont essayé de nous balancer un truc, en gros, on s'est tous retrouvés, on s'est embrassés, nous les 27, on s'aime, etc. Et heureusement, Matteo Renzi, qui vient de se faire sauvagement bananer sur l'immigration, sur les politiques économiques, etc., a balancé le morceau en disant, on est d'accord sur rien. Et d'ailleurs, immédiatement suivi par Viktor Orban, qui pour la première fois, depuis qu'il est Premier ministre, a fait une conférence de presse en anglais, pour être certain, puisqu'il n'y avait pas l'interprétation, on n'a pas les moyens, effectivement, en Slovaquie, donc avait aussi profité de ce moment pour dire, ben non, on est d'accord sur rien. Et d'ailleurs, j'organiserai bien mon référendum sur l'immigration comme prévu au mois d'octobre.
La raison pour laquelle nous sommes à la Commission européenne aujourd'hui, c'est parce que Pierre Moscovici est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évidemment le commissaire européen français en charge des affaires économiques et financières. Vous occupez aussi de fiscalité et d'union douanière. Parmi les questions qu'on va traiter avec vous aujourd'hui, le Brexit. Tout le monde me demande, parce que je suis en poste à Bruxelles, la boulangère, ma grand-mère, la prof de maths de ma fille me dit, vous devez savoir, est-ce que les Anglais ils vont vraiment sortir? J'essaie toujours d'avoir un avis autorisé sur la question, mais vous, peut-être que vous avez vraiment un avis. Est-ce que les Anglais ils vont sortir?
Oui, je pense que, de façon logique, il y a eu une décision démocratique du peuple, on la regrette, ou c'est mon cas, mais on la respecte. Et j'imagine mal, maintenant, qu'il y ait un retour en arrière. D'ailleurs, je voyais des études qui sortent, qui montrent qu'en réalité, l'opinion publique n'a pas beaucoup changé sur le sujet, qu'il n'y a pas de regrets, qu'il n'y a pas de remords. Et c'est ce qui se passe en général. Donc, oui, à mon avis, la Grande-Bretagne ne sera plus membre de l'Union européenne, mais elle restera un pays européen avec lequel on doit définir des relations solides, confiantes, mais dans un cadre assez exigeant.
Oui, les Britanniques vont sortir, selon Pierre Moscovici. Voilà, ma boulangère, ma grand-mère et l'instituteur de ma fille ont enfin la réponse. Nous allons parler d'avenir de l'Europe, de fiscalité et de déficit public qui vont très clairement être au cœur de la campagne présidentielle d'ici à mai 2017. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500ME. Alors, dans le Figaro, cette semaine, Pierre Moscovici, vous avez prévenu, je vous cite, « Il n'y aura ni sursis supplémentaire, ni entorse, ni exception pour la France au sujet des déficits publics qui devra tomber nettement en dessous de 3% en 2017, selon nos critères de la Commission européenne, qui ne sont pas ceux de Paris. » Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je vois une campagne présidentielle qui s'annonce. Je vois des primaires qui démarrent à droite comme à gauche. Je vois à droite comme à gauche, un peu plus en ce moment à droite qu'à gauche, mais enfin quand même ça existe aussi à gauche depuis longtemps, la tentation de jeter le pacte par-dessus les murs, de le laisser dans les orties, d'en finir avec ces maudits 3%. Je vois des affirmations martiales du genre « moi je vais arriver à négocier, je sais comment on fait, je sais les faire plier, etc. etc. » Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis commissaire européen chargé de ces questions. Et je le dis de la manière la plus claire. Pour la Commission européenne, la France ne peut pas avoir de délai supplémentaire. Le déficit qui est prévu pour 2017 par ce gouvernement est de 2,7%. Nous allons maintenant voir si les méthodologies convergent, si les chiffres sont crédibles. J'espère, je pense que c'est jouable. La France est engagée à être en dessous de 3% en 2017. Elle doit l'être dans son projet de budget et elle doit l'être dans l'exécution budgétaire.
Après deux délais de deux ans, ces dernières années.
Deux ans, ça suffit. Il reste aujourd'hui dans l'Union européenne un pays qui a un déficit supérieur, c'est l'Espagne. Un pays qui va passer en dessous de 3%, c'est le Portugal. Un autre qui est la Grèce dans une situation spécifique. La France doit, pour sa crédibilité, être en dessous de 3%. Elle doit l'être aussi en exécution en 2017. Donc, après, il y a des élections. Et les Français vont choisir un président. Il sera de gauche ou de droite. Alors, on verra. Mais en toute hypothèse, il mettra sa politique en œuvre. Mais il doit respecter ses critères.
Quand vous dites que vous allez mettre les pieds dans le plat, j'ai pas entendu quoi que ce soit de nouveau là pour l'instant.
Si, je suis en train de dire que si quelqu'un s'amuse à promettre aux Français qu'on fera plus de 3% en 2017, celui-ci trouvera la Commission là comme gardienne des traités. D'ailleurs, c'est
et
pas
donc
le
pacte. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est pas le pacte de stabilité.
Les nouvelles règles de gouvernance économique. Je cite les textes de la Commission. Pour les États membres de la zone euro faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif, c'est le cas de la France avec 5 autres pays, les pénalités financières sont infligées plutôt et peuvent être augmentées progressivement. L'absence de réduction adéquate du déficit peut entraîner une amende de 0,2% du PIB. Le PIB de la France est de 2181 milliards d'euros. 0,2% du PIB, ça fait, si on parle tous les deux, ça fait 4,3 milliards d'euros. Allez-vous infliger une amende de 4 milliards d'euros à la France l'année prochaine?
Vous perdez du temps avec votre longue question pour une question simple. Raison simple, c'est que cela ne peut pas arriver, que ça n'arrivera pas, que ça ne doit pas arriver. Donc je suis pas dans le « et si ». Je suis en train de dire de la manière la plus claire qu'il y a des traités. La France sera en dessous de 3% en 2017.
Et vous êtes aux affaires en France.
Et je vais pour... Mais je suis en, aux affaires ici.
Attendez, François Fillon, et ensuite on va laisser parler quand même François Fillon, il table sur un déficit de 4,7%.
Est-ce que vous voulez bien me laisser parler? Peut-être. Parce que je voudrais dire non seulement qu'il y a des règles, mais qu'en plus ces règles sont utiles pour l'économie française. Je trouve stupide cette espèce de préférence française pour le déficit. Je vois des pays en Europe, il y en a un qui s'appelle l'Allemagne, son déficit est à zéro, son taux de chômage est à 4. Je vois un autre dont le déficit est à 3,3 probablement en 2016 et qui a un taux de chômage à 10%. Lequel est le plus performant? S'il suffisait de faire du déficit pour relancer la croissance et pour faire reculer le chômage, ça se saurait. Et donc, je pense qu'il y a aussi des problèmes de crédibilité, il y a un problème de rapport franco-allemand, il y a les règles, tout ça plaide pour que la France se sente sur les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est pas de faire plus de déficit, c'est de faire une dépense publique mieux maîtrisée et plus intelligente.
Mais en mai prochain, de toute façon, la gauche sera plus au pouvoir, donc c'est la droite. En fait, vous vous adressez à la droite. Donc là, est-ce qu'il n'est pas plus facile dans votre position, vous, socialiste...
Je préfère toujours m'adresser à la gauche, vous savez.
Oui, mais là, en l'occurrence, il n'est pas plus facile de se montrer bien dur, bien ferme, puisque vous savez bien que François Hollande va dégager au mois de mai prochain.
Mais je veux bien qu'on fasse ces petits calculs. Je suis un homme de gauche, incontestablement, et je souhaite que la gauche gagne en 2017. Et je pense qu'il n'y a pas d'élection perdue ou d'élection gagnée d'avance. Et ça, on a tort de réfléchir comme ça. Mais vous savez, non, c'est pas exact ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a un président qui est de gauche, je crois. Il y a un gouvernement qui est de gauche. Et j'ai insisté beaucoup pour que l'avant-projet de budget présenté soit à 2,7%. Et il eût été tentant, peut-être aussi à gauche, j'entendais des responsables, d'autres, je ne veux pas les nommer, qui disaient les 3%, somme toute, etc., etc. J'ai toujours dit au président de la République française que je connais bien, au ministre des Finances que je connais bien, au Premier ministre que je connais bien, non, chers amis, ce sont mes amis aussi, il faut absolument que vous soyez crédibles et que la France soit nettement en dessous de 3%
en 2017. Pas de cadeau à
vous. Ni aux uns, ni aux autres. Et donc, encore une fois, ma parole là, elle est impartiale, elle est au nom de nos traités, elle est au nom de nos règles, elle est aussi dans l'intérêt du pays. Parce que franchement, faire plus de déficit, c'est avoir plus de dettes. Avoir plus de dettes, c'est avoir moins de services publics et c'est avoir moins de croissance. Parce que tout euro consacré au service de la dette, c'est un euro perdu.
Vous êtes quand même très mou, Pierre Moscovici aussi, je me suis de vous le dire. Sur le déficit, parce que vous attendez un peu sur le Portugal et sur l'Espagne et vous vous êtes dégonflé assez lamentablement. Donc moi, je suis français, je veux dire, je vais être élu en mois de mai prochain. Je me dis, ouais, Moscou, encore une fois, il fait parler de lui, mais
je vais lâcher. Pierre Moscovici a l'air à peu près de bonne humeur. Si tu commences à balancer qu'il est mou et dégonflé.
Est-ce que votre position n'est pas risquée? Parce que vous dites, la France sera en dessous de 3%, oui. Mais vous ne pouvez pas le garantir, n'étant pas aux affaires en France. Vous dites, la Commission fera son travail, mais vous allez être face à des gens qui vont vous dire, mais le problème, c'est la Commission. Et pas seulement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais dans les partis de gouvernement au centre, et qui commencent à le dire, les gens pendant la campagne, les candidats vont dire le problème, c'est la Commission. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez? En quoi vous leur dites que la Commission est une solution? Parce que c'est ça, la campagne que vous allez devoir faire pendant ces présidentielles.
angles d'attaque. Je vais essayer de répondre aux deux. Sur le premier, non, la Commission n'est pas molle et je ne suis pas mou. Et sur l'Espagne et sur le Portugal, qui sont deux pays qui ont connu une crise économique épouvantable, qui ont soit connu l'un un programme, soit ont frôlé l'autre le programme, les mettre sous sanction eût été pénaliser encore des économies en difficulté. Et ce que nous avons obtenu, c'est mieux que ça. C'est qu'ils s'engagent à faire des efforts. Et mon rôle, le rôle de la Commission, c'est de veiller à ce que les engagements pris soient tenus. Et à l'égard de la France, franchement, la France n'est pas l'Espagne, la France n'est pas le Portugal, et la France a eu deux fois deux ans de délai. Après, vous avez un autre texte sur la Commission. Il ne s'agit pas de la Commission. Enfin, la Commission, en l'occurrence, elle est la gardienne des traités, elle est la gardienne de règles communes. Et puisque vous évoquez la mollesse, c'est vrai que du côté du Conseil, c'est les ministres. Il y a des gens plus durs que la Commission. Allez voir ce que demande le ministre allemand ou ce que demande le ministre néerlandais. Et s'imaginer que dans 6 mois, 8 mois d'ici, ils vont trouver des partenaires européens qui vont leur dire « Mais bien sûr, mon petit chéri, tu veux faire 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, oui. Ça ne pose pas de problème. » C'est faux.
Admettons donc la Commission, qu'est-ce
la Commission
qu'on fait
est toujours une solution. La Commission n'est pas le problème. Et en l'occurrence, je ne parle pas de la Commission, je parle de nos règles. Je parle de l'intelligence de ces règles, je parle de la nécessité de les respecter.
Pierre Moscovici, en 2011...
Parce qu'elles sont économiquement intelligentes aussi.
À l'époque où François Hollande déficit, était pas candidat bon pour la France. À la présidence de la République, vous étiez à ses côtés.
Arrêtez de couper, Pierre Moscovici, oui, on s'y retrouve plus.
D'accord, au bout de 4 minutes de réponse, je me permets d'intervenir. En 2011, vous étiez directeur de campagne de François Hollande, qui a été élu l'année suivante, qui promettait à l'époque d'atteindre 0% de déficit en 2017.
Non.
Et Pierre Moscovici, vous étiez à ses côtés quand il disait ça.
Je vais vous dire plus, il n'y a pas de secret, on s'en souvient peut-être. J'étais aussi ministre de l'économie et des finances pendant les deux premières années du quinquennat, et j'ai été celui qui a... Vous avez parlé deux fois de deux ans de délai. Je l'ai fait, j'allais dire, en quelque sorte, comme consommateur, puisque j'ai obtenu deux ans de délai quand j'étais ministre des finances, et comme producteur quand j'étais commissaire. Mais imaginez-vous que l'économie n'est pas une science exacte, que d'abord les déficits...
Et là, précisément parce que ce n'est pas une science exacte, on n'est pas sûr que la France sera dans les clous l'année prochaine. Comment vous faites? Quelle est la sanction? Quelle est la sanction?
Je veux bien que vous ne laissiez pas répondre et vous posiez des questions interminables, plus longues que les réponses. Mais si vous me laissiez dire deux choses, la première, c'est que les déficits étaient à un niveau qui était très supérieur à ce qui avait été annoncé en 2012. Ils étaient à plus de 5% s'il n'y avait pas eu de mesure d'ajustement immédiate. Et deuxièmement, la croissance a été, de ce fait, beaucoup plus faible. Mais là, la droite ou la gauche tomberont sur une situation où les déficits devraient être en dessous de 3%. Donc, il faudrait les faire remonter.
Mais François Fillon, il veut tabler sur un déficit de 4,7%. En 2017, s'il est élu, qu'est-ce que vous lui faites?
Je veux pas entrer dans
Alain Juppé, il veut renvoyer l'objectif de 3% à 2018. Nicolas Sarkozy, il parle d'un contre-choc fiscal.
Je ne veux pas être trop dans la politique politicienne. Quand je regarde, François Fillon n'est pas encore élu, président de la République, il n'a pas forcément encore gagné la primaire. Mais j'ai quand même un souvenir, que vous avez peut-être aussi, celui d'un Premier ministre qui expliquait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Celui qui est en train de nous expliquer qu'il est le meilleur gestionnaire possible pour la France et qu'il a le programme le plus réaliste. Et celui-là voudrait... qu'alors que la France va tangenter les 100% de dette publique, on réenclenche la mécanique qui crée des déficits. Parce que il faut quand même pouvoir aussi expliquer quelque chose aux Français. C'est leur intérêt. Quand le service de la dette augmente, c'est une mauvaise dépense publique. C'est 1 euro en moins pour l'éducation, 1 euro en moins pour la sécurité, 1 euro en moins pour l'hôpital, 1 euro en moins pour la protection sociale, c'est 1 euro en moins pour l'économie. Donc, c'est vraiment la mauvaise dépense publique. Et par ailleurs, ça aussi pénalise la crédibilité du pays, ça fait jeter un mauvais regard de la part des marchés sur le pays, ça fragilise l'économie, et ça ne crée pas de croissance. Donc, la vraie réponse, où est-elle? C'est la maîtrise de la dépense publique. Et c'est une dépense publique à la fois plus limitée et plus intelligente.
Mais ce n'est pas la faute à la conjoncture seulement, je veux dire. Qu'est-ce que la France ne fait pas?
La France n'a pas fait suffisamment de réformes depuis longtemps et la France n'a pas eu, par rapport à sa dépense publique, une attitude suffisante. On peut aussi, de temps en temps, regarder les choses.
Il faut moins de fonctionnaires.
Ça veut dire que quand on a diminué les dépenses publiques, on a fait trop de saupoudrage, on a fait trop de rabots, on n'a pas fait assez de mesures structurelles et ça fait des décennies que ça dure. Ça veut dire qu'on ne s'est pas assez concentré sur l'éducation, sur le capital humain. Ça veut dire qu'on n'a pas assez privilégié l'investissement par rapport au fonctionnement. Ça veut dire qu'on n'a pas assez eu d'évaluation indépendante.
Oui, quel est le problème?
Si vous voulez regarder à un moment donné les performances du pays, voilà un pays que je connais bien, c'est le mien. Et je suis français, européen, mais français. Un pays formidable, qui a tous les atouts économiques du monde, qui a des boîtes extraordinaires, qui, en termes d'innovation, de recherche et de développement, est meilleur. C'est pour ça que je ne suis pas pour l'augmentation des déficits, parce que, en vérité, c'est une vieille préférence française. C'est juste pour différer ou amortir les effets de la réforme.
On doit conclure sur ce point. L'absence de réduction adéquate du déficit peut entraîner une amende de 0,2% du PIB. Ce sont les textes de la Commission européenne. Quand vous dites qu'il n'y aura ni sursis supplémentaire, ni entorse, ni exception pour la France, est-ce que ça veut dire que si la France dérape à nouveau l'an prochain, elle écopera d'une amende de plus de 4 milliards d'euros.
Vous l'avez dit, vous pouvez le répéter autant de fois qu'il faudra. Mais c'est pas tant ça le problème.
Moi, j'ai pas envie de le répéter, j'aimerais bien que vous, commissaire européen, vous le disiez.
C'est déjà valable pour cette année.
Vous voulez pas le dire? Pourquoi vous voulez pas le dire?
Mais parce que je ne suis pas encore à la fin 2017. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Mais les textes sont les textes, ils seront appliqués. Simplement, la vraie sanction, elle est pas de cette nature-là. C'est pas ces 4 milliards qui seraient le problème. C'est la sanction politique, c'est la sanction économique, et c'est l'absence d'efficacité et de justice.
Mais Yann Antony a vraiment besoin d'avoir des chiffres, ça vous savez, des choses comme ça.
Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on tourne autour du pot comme ça et qu'on ne veuille pas donner des chiffres.
Mais c'est pas pour vous que je le fais pas. Moi, j'ai une formule que je vais traduire en français parce que je sais que Jean Quatremer serait très fâché. Je ne suis jamais monsieur, sauf si. J'essaie de traiter les solutions pour questions pour trouver des solutions, pas pour poser des problèmes et pas pour envisager les mauvais scénarios. C'est pour ça que je vous réponds que en dessous de 3% en 2017, non, non et non.
D'accord, juste après la pause, Jean Quatremer, Florence Sautret, Pierre Moscovici, nous parlerons de l'avenir de l'Europe et de fiscalité et on donnera la parole en premier lieu à Jean Quatremer. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis la Commission européenne à Bruxelles.
Oui, depuis la Commission européenne à Bruxelles, parce que notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, financières, en charge également de la fiscalité et de l'union douanière. Également avec nous, Florence Sautret de La Tribune et Jean Quatremer de Libération et du bloc Coulisses de l'Europe. J'avais promis de donner... Coulisses de Bruxelles, pardon. J'avais promis, je lis plus votre blog depuis qu'il y a Politico à Bruxelles. J'avais promis de donner la parole à Jean Quatremer dès la reprise. Alors, Florence Sautret, nous allons parler d'Apple. Apple qui a écopé d'une amende de 13 milliards d'euros de la part de la Commission européenne. On en a déjà parlé dans cette émission il y a 15 jours. Et aux surprises, Michel Sapin, le ministre français à Bercy, qui dit « Nous ne réclamons aucune part des 13 milliards ». Or, il y a peut-être un petit peu d'argent qui pourrait revenir à la France là-dedans.
Apple, et
la France...
Apple vend en France ?
C'est ça. La France n'a pas besoin d'argent.
Non.
Elle récupère auprès d'autres multinationales, mais apparemment, auprès d'Apple, elle récupère pas cet argent.
Alors que l'Autriche et l'Espagne ont déjà dit qu'eux voudraient récupérer de l'argent.
Oui, absolument. Mais je pense que peut-être ils sont pas complètement au clair avec Apple.
J'ai essayé d'expliquer à Bratislava une semaine avant, il y avait une réunion des ministres des Finances, pourquoi les choses étaient compliquées. Bon, je considère cette décision d'Apple comme une décision vraiment historique, qui montre la détermination absolue de changer la donne et d'aller vers une ère de transparence et de faire en sorte que les multinationales payent leurs impôts là où elles créent des profits.
La Commission européenne qui a déclaré en gros qu'il s'agissait d'aides d'État illicites et donc la Commission qui utilise le levier de la concurrence.
De toute façon, on parle pour l'instant de choses assez théoriques, puisque je rappelle qu'il y a un appel qui va durer un certain temps et qu'on ne connaît pas la décision définitive. Et trois, les ministres effectivement autrichiens et espagnols ont demandé à la Commission des informations. Et j'aurais répondu ce que je vais vous répondre. C'est-à-dire que nous ne les avons pas. C'est-à-dire que pour que les informations soient données aux différents États membres, il faut, un, que l'État concerné soit d'accord, c'est-à-dire l'Irlande, et deux, que l'entreprise soit d'accord. Or, comme ils sont tous les deux dans la procédure d'appel, ils ne sont pas d'accord. Ce qui fait que, pour le moment, on ne peut pas, et c'est ce que Michel Sapin dit, réclamer sa part, mais le moment venu, tout cela sera sur la table.
Mais nous ne réclamons aucune part.
Mais quel aveu d'impuissance, parce que...
Mais arrêtez de parler d'impuissance. Et ne faites pas de démagogie. C'est simplement le droit. Et c'est pas seulement le droit européen, c'est aussi le droit des affaires.
D'accord, mais il pourrait au moins dire qu'il va s'y mettre et qui va chercher à obtenir quelque chose.
Pourquoi est-ce que vous voulez toujours...
Vous dites que la Commission prend une décision historique et immédiatement le ministre des Finances dit
les chevaliers d'un grand... C'est pas une question de gauche, d'un grand sérieux. À quoi ça servirait de prétendre qu'on va demander quelque chose dont on sait, un, qu'on peut pas l'obtenir, et deux, qu'on n'a pas d'informations dessus.
Et sachant que la France, qui pratique elle-même des rescrits fiscaux, des tax rulings, ne voudrait peut-être pas que par la suite, d'autres États viennent récupérer de l'argent.
Là-dessus, il y a un échange d'informations sur les rulings, c'est ce que je vais répondre, qui est un échange d'informations entre administrations fiscales, au cœur duquel réside la Commission, mais il s'agit là d'autre chose. Il s'agit d'une procédure, qui est une procédure judiciaire, et en effet, d'une amende, ou plutôt d'une demande de remboursement, au titre des aides d'État.
C'est un redressement fiscal, on est bien d'accord. Mais pour informer les inspecteurs du fisc, il faut se faire communiquer les rulings, il y a quand même des données financières publiques, c'est quelque chose
qui est encore une fois dans une procédure, et il faut, de manière tout à fait explicite, l'accord de l'État concerné et de l'entreprise.
Nous avons mis l'année au continu de la procédure. Pierre Moscovici vient de parler d'amende. On va progressivement y arriver.
Non, c'est pas une amende. J'ai précisé que c'était quelque chose qui est à percevoir, un impôt non perçu et un remboursement.
Mais ce qui est fondamental dans cette décision Apple, encore une fois, c'est que ça montre que ce n'est pas l'Union européenne ou la méchante Commission européenne qui sont responsables de la concurrence fiscale illicite en Europe. C'est ça que ça montre. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'Irlande, on voit la Belgique, on voit les Pays-Bas, on voit le Luxembourg attaquer la Commission. On voit la France de gauche regarder ailleurs. Et là, pour une fois, je dois reconnaître, la Commission joue son rôle.
Je pense qu'avec Margrethe Vestager et sous l'autorité de Jean-Claude Juncker, on forme un bon tandem. Pourquoi ? Moi, je propose des législations qui sont en général maintenant acceptés par les États membres qui sont sous la pression de l'opinion, pour en effet qu'il y ait un échange automatique d'informations sur les tax rulings, pour qu'il y ait des accords qui sont signés avec Monaco, Monsieur Noguès, avec la Suisse, avec le Liechtenstein, avec San Marin, sur les échanges d'informations sur les comptes des particuliers. Certaines affaires qui ont défrayé la chronique ne pourraient pas se produire aujourd'hui dans les mêmes conditions. Ai-je besoin de dire à quoi je pense ? On a fait adopter une directive sur la lutte contre l'évasion fiscale. On a aussi fait adopter une directive sur les données publiques, plutôt pour l'instant, entre administrations des entreprises. Et j'ai encore autre chose dans le magasin. Je proposerai, dans peu de temps, on a commencé une liste noire de paradis fiscaux européennes. Ce sera la première avec des critères communs et des sanctions communes. Je proposerai qu'on revienne aussi à une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Nous sommes à l'offensive. Et oui, on est en train de changer de monde. On est en train d'aller vers le monde de la transparence pour les multinationales. Et c'est la raison pour laquelle je trouve, si je peux le dire, que Monsieur Tim Cook a tort d'être aussi agressif,
le PDG d'Apple,
parce qu'il parle là d'un monde passé. Et moi, je pense que des entreprises qui sont bonnes citoyennes et bonnes contribuables et qui jouent le jeu, c'est beaucoup plus intelligent que la confrontation.
On est en train de changer de monde. Est-ce qu'on va changer d'Europe, Jean ?
Mais écoutez, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté politique de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les chefs d'État et de gouvernement qui ont les cartes en main, c'est eux qui peuvent modifier l'Europe. C'est pas la Commission européenne, c'est pas vous, c'est pas Jean-Claude Juncker. Il faut un accord unanime des États qui a plus de volonté. Et plus grave, j'ai le sentiment qu'entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas de volonté non plus. On l'a vu à Bratislava. C'est-à-dire, on cherche désespérément les idées neuves. Je me rappelle qu'en juillet dernier, François Hollande avait, à la sortie d'un conseil des ministres, dit et remis donner le ballon à Manuel Valls en disant je charge Manuel Valls, Premier ministre, sans précédent dans l'histoire française, de faire des propositions pour Bratislava sur l'avenir de l'Europe. Ces propositions, on les a toujours
pas.
Pour un sursaut européen. Vous vous rappelez de cette phrase historique?
Oui.
Bon, et on n'a toujours rien vu. Donc j'ai vraiment l'impression, et Pierre Moscovici, je voudrais vraiment avoir votre sentiment là-dessus, qu'au fond, on est face à des États qui gèrent un héritage sans volonté de le développer.
Ici, après cette question de 3 minutes.
Bratislava, on peut avoir des opinions diverses sur Bratislava. Je dirais qu'en toute hypothèse, il fallait manifester que les Européens n'allaient pas se mettre sur le mode pause dans la perspective du Brexit, qu'on n'allait pas tout geler pendant 2 ans. Après, ce qui est vrai, c'est qu'à Bratislava, il me semble qu'ils ont davantage insisté sur un certain nombre de questions concrètes dans le domaine de la protection des citoyens pour assurer la sécurité, qu'ils ont aussi voulu donner des signaux sur la jeunesse, que c'est vrai, les questions économiques ont été un peu laissées de côté, à part, il faut le dire quand même, la prolongation du plan Juncker et son doublement à terme, 500 milliards en 2020, 630 milliards en 2022, ce qui prouve que ça marche parce qu'on a besoin d'investissement. Pour moi, je le dis aussi, c'est mon sentiment, on ne peut pas pour autant abandonner la perspective d'un approfondissement de la zone euro. Ce serait non seulement une erreur, ce serait une faute politique, parce que la zone euro reste l'outil le plus efficace, le plus puissant. Je pense que c'était une première étape pour manifester, on continue, mais je souhaite qu'il y ait effectivement des choses beaucoup plus ambitieuses à l'avenir, étant entendu qu'il y a aussi, on le sait, des échéances politiques. Oui. Dans le paysage, qui ne simplifie pas les choses, le fait qu'il y ait une élection aux Pays-Bas, une élection en France, une élection en Allemagne, a des effets
en Italie. Il faut attendre fin 2017.
Moi, je me refuse à ce que l'année 2016-2017 soit une année blanche, notamment sur les sujets économiques. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur la zone euro, la Commission doit faire son travail, faire en sorte qu'il y ait un white paper, qu'on ait un papier blanc, un livre blanc, et qu'on soit capable d'aller vers ce que je crois nécessaire, c'est-à-dire une capacité budgétaire ou un budget de la zone euro, une meilleure gouvernance de la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro qui doit, à mon sens, être aussi un membre de la Commission, responsable devant le Parlement européen. Donc plus de transparence, plus de démocratie, des outils nouveaux pour faire face à quoi ? À la crise des réfugiés, à la sécurité, pour stabiliser la zone euro et aussi pour permettre d'avoir une assurance.
Dans son état de l'Union, Jean-Claude Juncker à Strasbourg, il y a 2 semaines, a fait plusieurs propositions. Il a parlé du doublement du plan d'investissement Juncker pour le porter à 500 milliards d'ici 2020. Et puis il y a l'Europe de la défense, un projet que vous jugez très important avec une véritable politique de défense pour notre continent. Vous dites que c'est pour la France aussi la perspective d'une charge mieux répartie. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France. Mais Michael Fallon, c'est le ministre britannique de la Défense, lui, il a dit que le Royaume-Uni opposerait son veto à la création de capacités militaires européennes tant qu'il ferait partie de l'Union européenne. Pas question de créer un rival à l'OTAN. Pour conclure, vivement qu'il s'en aille, c'est ce que vous dites ?
Non, ben ça, on retrouve des vieux débats, alors qui me paraît d'ailleurs totalement obsolète, tant je sais que la France et la Grande-Bretagne ont développé ensemble des partenariats. Je n'accorde pas plus d'importance que ça à ce stade, à ces discussions. Et je suis tout à fait solidaire de la proposition de Jean-Claude Juncker de créer en effet un quartier général commun et aussi un fonds, dans un premier temps consacré à la recherche et à l'innovation en matière de défense. Et il faut quand même être conscient que nos concitoyens, qu'ils soient pour le coup français, italiens, allemands ou britanniques, attendent cette Europe de la défense parce que la protection, la sécurité, on attend une Europe qui protège. De ce point de vue-là, Bratislava n'est pas inutile. Je pense qu'il faut, simplement, il ne suffit pas que l'Europe protège, il faut aussi qu'elle dynamise. Et là, l'économie ne peut pas être le parent pauvre.
Pierre Moscovici, le commissaire européen, est avec nous, avec Florence Autret de la Tribune, Jean Quatremer des coulisses de Bruxelles, parce que juste après la pause, nous retrouverons Maya Delabaume de Politico pour les coulisses de l'Europe, ainsi que Éric Scholl pour la revue de presse européenne. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Nous sommes toujours à la Commission européenne. Nous poursuivons notre discussion de 500 millions d'Européens avec quelque part notre ministre, notre commissaire de tutelle, Pierre Moscovici, le commissaire européen français en charge des affaires économiques, financières, de la fiscalité et de l'union douanière. Bonjour Maya Delabaume.
Bonjour Yann Anthony.
De Politico, comment allez-vous ?
Très bien. Très bien.
Vous allez nous parler de quoi dans vos coulisses de l'Europe aujourd'hui ?
Du Parlement européen qui recrute des conseillers politiques dans les groupes politiques. Et ça crée des remous parce que encore on recrute des gens alors que pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on recrute des gens ?
L'Europe qui crée de l'emploi, le Parlement européen qui crée de l'emploi et on critique. Toujours avec nous Florence Autret de La Tribune, Jean Quatremer de Libération, Minute, vous faites des piges le week-end pour Minute.
Ça c'est le running gag désormais.
C'est le running gag et puis nous serons rejoints tout à l'heure par le patron de la rédaction de Courrier International, Éric Scholl, pour sa revue de presse européenne. Nous irons avec lui en Lituanie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Oui, pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Le Parlement européen veut recruter 76 conseillers politiques.
Oui.
Et ça fait des remous.
Oui, c'est un amendement qui a été déposé par les deux grands groupes politiques du Parlement européen, donc les sociodémocrates et le PPE. Et ils veulent, les conservateurs, et ils veulent plus de conseillers politiques parce que, évidemment, au Parlement européen, il y a des groupes politiques qui sont là pour soutenir les députés. Et du coup, ils veulent qu'il y ait plus de staff dans ces groupes politiques. Or, ça va vous sembler peut-être mineur, mais pour moi, non, puisque finalement, on est dans une période de post-crise financière, on est dans une période aussi de réduction des effectifs dans les institutions européennes. Ça fait longtemps que la Commission européenne a cet objectif de 5% de staff en moins, et le Parlement européen est à la traîne à ce niveau-là, et tout le monde le sait ici, mais on n'en parle pas forcément tout le temps. Et par-dessus le marché, on a un Parlement européen où il n'y a plus vraiment beaucoup de boulot, c'est-à-dire que les députés se plaignent qu'ils n'ont pas assez de législation sur leur table. Alors, pourquoi est-ce qu'on va recruter d'autres gens?
Mais pourquoi, alors, concrètement, pourquoi ils veulent augmenter le staff?
Parce que ils ont besoin d'avoir un vrai soutien pour les députés, un soutien qui transforme le député en un véritable expert. À chaque fois que la législation arrive, il faut que le député, il soit entouré de gens pour l'aider. Sauf qu'il a déjà beaucoup d'assistants, donc il peut aussi utiliser ses assistants. Et les conseillers,
aujourd'hui, les parlementaires européens disposent d'une enveloppe de 20 000 euros par mois pour payer leur assistant. Alors, le français, avec ça, il peut se permettre 3, 4 assistants.
Le bulgare,
il en a 25. Le pire, c'est que c'est pas une blague. Effectivement, il y a des bulgares qui ont 25 qui travaillent pour les partis politiques en Bulgarie.
Et les groupes politiques, ils ont déjà, les deux grands groupes, ils ont déjà quasiment 300 personnes qui travaillent pour eux. Donc,
Mais par rapport au Congrès américain, ils sont understaffed, comme vous diriez.
Oui.
Ils ont moins de monde. Ce qui les rend plus dépendants, des lobbies. Et c'est toujours l'explication qui est donnée ici. Oui, il y a 15 ou 30 000, ça dépend des chiffres de la police ou des manifestants. Il y a beaucoup de lobbies, de lobbyistes ici à Bruxelles. Mais c'est parce qu'ils apportent de l'expertise à des eurodéputés qui n'ont pas les moyens de se faire eux-mêmes toujours leurs propres études.
Le Parlement européen, où c'est infiniment moins de pouvoir. Je veux dire, c'est un Parlement qui... Ils n'ont pas à poser la question de là d'où viennent leurs ressources. Ils disposent de pas beaucoup d'argent, mais ils lèvent pas d'impôts. Ils en dépensent, par définition, ils décident sur le montant de dépenses qui est quand même un vingtième du montant des États-Unis. Donc c'est normal que le Parlement européen soit un peu sous-staffé.
Alors Pierre Moscovici, maintenant que Florence Autrey a dit que le Parlement européen valait tripette, qu'est-ce que vous avez à dire, européen?
Je suis très attaché au Parlement européen. J'ai été deux fois député européen et je vois que c'est une institution dont le rôle ne cesse de gagner. Parce que c'est vrai que quand la première fois que j'ai été élu en 94, c'était pour le coup un forum sympathique entouré de lobby. Quand je suis revenu en 2004, ça commençait à être un vrai Parlement avec des activités législatives de plus en plus fortes. Et elle continue d'être plus forte. Et forcément, la Commission a du respect pour le Parlement. Je souhaiterais qu'il accroisse encore sa fonction de contrôle. Après, je suis incapable d'avoir des ratios, de dire si c'est trop, si c'est pas assez. Et je sais aussi qu'on est dans un temps où une utilisation parcimonieuse de la dépense publique, ça veut dire justifiée, doit être la règle. Donc, je suis pas en mesure de dire c'est bien ou c'est mal. Je pense simplement qu'un Parlement, comme le Parlement européen, doit pouvoir jouer pleinement son rôle avec les moyens appropriés.
Un conseiller politique, de toute façon, c'est pas un fonctionnaire, déjà. Donc, c'est pas un recrutement sur la base d'un concours de la fonction publique européenne. Donc, très souvent,
C'est le budget européen, de toute façon.
Voilà, c'est le budget européen. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, en réalité, lorsqu'on connaît bien le fonctionnement de la machine, c'est que ce sont les copains et les coquins des partis politiques. C'est ça la triste réalité des choses.
Vous illustrez quelque chose qui me venait en écoutant cette conversation, c'est qu'il faut être capable de faire le départ entre ce qui est la maîtrise des finances publiques, et on doit être là-dessus extrêmement rigoureux, et en même temps éviter l'anti-parlementarisme.
Voilà.
Que les parlements aient les moyens de travailler, c'est la démocratie. Le jour où les parlements sont des parlements trop pauvres, à ce moment-là, le Parlement ne pèse pas, et on a besoin de contrôle démocratique. Et je le vois sur mes activités.
Par exemple, 76 conseillers de la Commission et les mettre au Parlement. Pourquoi on ne fait pas
ça? Mais à la Commission, comme l'a dit Jean Quartremer, on fait déjà beaucoup d'efforts. On est quand même assez serré sur la dépense.
Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
La revue de presse avec Éric Scholl. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Le patron de la rédaction de Courrier International, également président de Reporters sans frontières. Vous avez parcouru toute la presse européenne pour nous cette semaine. Vous allez nous emmener en Lituanie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne. On commence par Vilnius.
Vilnius, oui, oui, une activité importante dans toute la Lituanie, en particulier dans cette frontière, vous savez, que cette poche, cette enclave de Kaliningrad, qui est une enclave russe, eh bien, juste du côté de la frontière lituanienne, une grosse activité de la part des agents secrets russes, du FSB, qui est en train de recruter massivement du côté des Lituaniens. Alors, il faut évidemment mettre ça en rapport. C'est en tout cas ce que raconte le magazine Veidas, qui est un magazine de bonne qualité, très bonne qualité, un news magazine lituanien. Et il faut mettre ça, évidemment, en rapport avec l'activité de l'OTAN. Il s'agit de regarder un peu l'OTAN est actuellement très active dans toute cette région. Et puis, il y a aussi l'élection présidentielle russe qui va bientôt arriver. Et c'est sans doute cela qui explique pourquoi il y a cet intense recrutement de Lituaniens pour le compte du FSB.
Voilà, le Parlement européen qui recrute des conseillers politiques et puis le FSB qui recrute des Lituaniens. Royaume-Uni, faut-il...
Personne n'est candidat à cette table ?
Jusqu'en novembre 2019, j'ai un job, donc... c'est bon. Après, on verra.
Mais regardez, on parle des barbouzes, des barbus. Regardez-nous.
Pour ceux qui ne nous regardent pas à la télévision, pour ceux qui nous écoutent, à la fois Pierre Moscovici et Jean Quatremer arborent une barbe de maintenant, on pourrait dire, de 6 jours ou de 18 jours. Je ne sais pas comment on doit la qualifier.
25 mois, moi.
Nous sommes nés la même année, et malheureusement, elle a tendance à blanchir.
Voilà. Vous êtes plus jeune, Pierre Moscovici. Royaume-Uni, faut-il relancer les écoles sélectives, Eric ?
Et c'est un débat en fait qui a été relancé par Theresa May parce que elle veut effectivement redonner vie à ces écoles qui ont existé. Donc c'est les écoles publiques et sélectives. Et ces écoles, elles ont été en fait quasiment abrogées par les travaillistes au début des années 90. Et aujourd'hui, donc le Premier ministre veut les remettre en place. Alors ça fait évidemment la gauche est contre et au sein des conservateurs, eh bien il y a tout un débat sur est-ce utile ou pas. Et la comparaison c'est à faire par rapport au privé, au secteur privé. Et The Times, alors, ouvre ce débat en expliquant qu'après tout, les grammar schools, c'est comme c'est leur nom, eh bien, elles seraient peut-être plus efficaces, elles permettraient un peu de mettre fin à cette grande domination de l'école privée aujourd'hui en Angleterre. Le Times explique qu'aujourd'hui, 70% des plus hauts magistrats et des officiers, 61% des grands médecins et plus de la moitié des journalistes, vous vous rendez compte, plus de la moitié des journalistes de renom de la presse écrite, eh bien, ont fréquenté le système scolaire privé. On connaît Eton, mais il y a évidemment toutes ces écoles, beaucoup d'autres qui sont très connues, par lesquelles passe toute l'élite britannique. Alors, il était temps de remettre ces écoles publiques, mais sélectives.
Pierre Moscovici.
Je pense que le système des grandes écoles aristocratiques, d'une certaine façon, avec le Brexit, on a vu quelles ont été les limites, c'est-à-dire que vraiment c'est un peu hors sol. Et de ce point de vue-là, David Cameron, George Osborne ont été de très dignes représentants, avec beaucoup de qualités, mais aussi avec quelques défauts.
Boris Johnson aussi.
Une fois qu'on a dit ça, ça n'est pas forcément pour aller dans le sens d'une mesure conservatrice. Et moi, ce que j'attends, là pour le coup, je vais le dire comme social-démocrate, c'est que le Labour sorte de l'ornière dans laquelle il semble enlisé, qu'il ne soit pas une vieille gauche, mais qu'il soit capable de trouver un réformisme juste.
Est-ce que c'est pas un problème aussi pour la France, l'élitisme de son enseignement supérieur est lié au manque de capacité de réforme que vous soulignez tout à l'heure? Je veux dire, il faut balayer devant sa porte. Je veux dire, tout le monde a...
Il n'y a pas tout à fait ces travers aristocratiques qui commencent en réalité très tôt.
C'est une aristocratie d'État, comme disait Bourdieu, mais c'est une aristocratie quand même.
Je suis mal placé pour parler de ça, ayant même fait quelques grandes écoles françaises. J'ai aussi été dans une école publique, dans un lycée public. Les systèmes sont quand même pas exactement de même nature.
Vous êtes hors système, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, vous, en tant qu'énarque.
Ah, mais je n'aimerais pas... cette attitude, quand on est soi-même un pur produit du système, cette attitude anti-système me parle d'une démagogie absolument sans nom, et j'évite de la pratiquer.
Vous avez le droit de la juger, tout de même.
Ce que je crois, c'est qu'on doit profondément réformer le système, changer le système. Mais l'attitude anti-système, chaque fois que j'entends ces mots-là, je me méfie.
Mais c'est intéressant parce que justement, ce que dit Éric Scholl là maintenant, c'est on critique tellement l'élitisme français dans le système éducatif, mais en fait, l'Angleterre, c'est 10 fois pire. C'est-à-dire que la grammar school dont il parlait sont des enfants de 11 ans à qui on soumet un examen très difficile. Enfin, Donc c'est vrai qu'on a bon dos nous en France de toujours se faire critiquer
en France là, faut l'avoir très raison, on a besoin quand même de diversifier les élites. Oui, c'est vrai, j'ai fait l'ENA. Combien y a-t-il de fils ouvriers à l'ENA? Quelle est la place de la diversité à l'ENA?
Combien d'universitaires à la tête de ministères aussi?
De ce point de vue-là, les efforts que font des institutions comme Sciences Po, que je connais bien pour la diversité, et je pense maintenant l'ENA commence à se préoccuper de ça, c'est des choses qui doivent être considérablement développées.
En tout cas, en Belgique, il y a un problème aussi au niveau des écoles, où certaines écoles étaient en grève cette semaine, ici à Bruxelles, notamment dans la commune d'Etterbeek, en raison d'une surpopulation à l'école, avec des enfants qui se retrouvent à manger par terre à la cantine. Belgique, justement, qu'est-ce qui tient ce pays debout, Eric ?
Oui, justement, alors vous êtes sans doute beaucoup mieux placés que moi tous pour répondre, mais c'est pas, je vous ai trouvé un papier qui a été publié dans le Vif l'Express et qui est passionnant sur, au fond, qu'est-ce qui définit ce qu'on peut appeler la belgitude. Et alors, il y a tout un tas de politologues, d'écrivains, d'historiens interviewés dans cet article. Si vous voulez, en fait, la prise de conscience, elle date du début des années 2000, notamment, je vous rappelle sans doute, de ce documentaire, Bye Bye Belgium, qui a été diffusé par la télé belge, et qui montrait, qui annonçait qu'il y a une sorte de scénario de scission de la Belgique. Et bien depuis, donc, il y a cette réflexion, et avec des je cite au hasard l'écrivain et historien Gilles Dahl, qui nous explique: les Belges sont pareils, ces malades dont le diagnostic vital est engagé, mais qui en rééchappe à chaque fois, après 10 fois, on se sent comme éternel. Et puis un politologue, alors là pour le coup français, mais qui enseigne en Belgique, Vincent Laborderie, qui explique: être belge en 2016, c'est avoir une multi-identité, belge et flamande, wallonne ou bruxelloise, liégeoise ou meckenbécoise, ou anversoise ou européenne. Vous voyez, on a en France ces débats sur les Gaulois, et je crois qu'en Belgique, vous avez d'autres types de débats qui nous passionnent.
De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts, les plus courageux,
les plus braves, bien sûr.
Aurait dit César. En tout cas, c'est ce qu'on
lui prête beaucoup à César.
Oui, on lui prête.
Enfin, on peut quand même avoir des ancêtres qui ne sont pas Gaulois. Ah. C'est mon cas, pas gaulois du tout.
Vous êtes français, vous avez des ancêtres gaulois.
Mais non, mes ancêtres ne sont pas gaulois. Quand ils sont devenus français, ils ne sont pas devenus gaulois. Mais je peux vous assurer que mes parents étaient d'excellents français, et que je me sens totalement français, que je suis très fier des français, et que je considère que c'est presque une insulte que de parler comme ça.
Justement, en parlant d'humour gaulois, Jean Quatremer, qu'est-ce que vous... Donc la Belgique est souvent qualifiée et présentée comme un laboratoire de l'Europe. Les Belges qui se disent qu'ils sont éternels, l'Europe est éternelle?
Non, c'est ce qui est plutôt inquiétant, justement. J'ai jamais compris qu'on présente la Belgique comme un laboratoire de l'Europe. De toute façon, il n'y a pas de laboratoire de l'Europe, puisque l'Europe est un laboratoire. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait.
Ils sont
très pro-européens.
Ils ne se posent même pas la question, en fait.
Parce qu'en fait, le problème des pays qui ont une identité vacillante, c'est de se raccrocher à l'Europe pour justifier le fait qu'ils existent. Et ça, c'est vraiment typique de la Belgique. Donc, en Belgique, vous avez un problème. Et d'ailleurs, qu'on retrouve en Grande-Bretagne, qu'on retrouve en Espagne, et dans une moindre mesure, en Italie, en fait, c'est des pays qui tentent de se réorganiser, qui tentent de passer vers un fédéralisme où chaque nation, qui est composée de plusieurs nations, parce que nous, en France, on a éradiqué nos nations assez sauvagement, on était 32 nations au départ, au sens moderne du terme, on va dire, et qu'on a éradiqué, et donc ils tentent de passer d'un État unitaire à un État fédéral, et ils n'y arrivent pas, et c'est ça qui est très préoccupant, c'est-à-dire, parce que, en fait, quand on commence à engager le mouvement vers la fédération, en réalité, on engage le mouvement vers la désintégration, et ça, c'est problématique.
Soyons conscients quand même que la situation de l'Europe est une situation sérieuse, que l'Europe n'est pas immortelle en soi. En tout cas, l'Europe, oui, mais l'Union européenne, non. Et c'est la raison pour laquelle le sursaut n'est pas une option. Et je le dis aujourd'hui, on a vraiment le choix entre changer ou mourir. Et je pense que il faut vraiment prendre ça avec calme, avec sang-froid. C'est pas pour demain matin. Il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie. Mais le combat contre les populistes mérite d'être mené. Il ne doit pas être mené à moitié. Moi, j'en ai un peu marre des partis de gouvernement qui, à force d'avoir des propositions molles, finissent par acclimater des diagnostics durs. Et je pense que les pro-européens doivent reprendre l'offensive. Sans quoi, à un moment donné, on se réveillera. Et il sera trop tard. C'est la fameuse métaphore de Bertolt Brecht. Vous savez, ils sont arrivés, et puis un jour, c'était mon voisin. Et je n'ai rien dit. et après c'est moi. Donc non, vraiment, l'Europe, le moment du sursaut ne peut pas être différé indéfiniment.
Merci beaucoup, Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour votre revue de presse. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maya Delabaume, pour vos coulisses de l'Europe. Merci, Jean Quatremer, pour vos coulisses de Bruxelles. Merci, Florence Sautret, pour vos coulisses du Berlaymont, où nous nous trouvons. C'est le siège de la Commission européenne. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir été notre...
Pas pour le trombone à coulisses.
Non, vous, merci pour votre participation. Merci pour votre honnêteté, d'avoir mis les pieds dans le plat, d'avoir dit que la France serait passible d'une amende de 4 milliards d'euros si elle ne respectait pas ses engagements l'an prochain. Merci beaucoup aux équipes de la Commission européenne qui ont mis en son et en image
cette émission.
Merci à Alexandre Rougier qui l'a préparé. On se retrouve la semaine... Qu'est-ce qu'elle dit, ma femme, Jean-Catherine ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.